Siamo in collegamento con Youssef Boussouma. Bonjour, tu nous entends?
Je vous entends très bien. Bonjour à vous.
Merci. Merci pour ta disponibilité. Là, du coup, on va commencer avec une première question. Je vais la poser en italien et en français. Après, comme ça, pour tout le monde, ça va être compréhensible. D'accord?
D'accord.
Merci. Bene, quindi siamo in collegamento con Youssef, che come dicevamo in apertura è una voce importante per il blog Parole d'Honneur, che appunto si rifà a una dimensione che è quella che arriva dalla tradizione del Partito degli Indigeni della Repubblica e che porta un punto di vista su i fatti, diciamo, del mondo. Una prima questione che vorremmo approfondire insieme a Youssef rispetto alla situazione in Siria è il fatto che sui media, nella narrazione occidentale, diciamo che quello che viene maggiormente fuori è come quello che si stia giocando su quel territorio sia schiacciato completamente su forze che dall'alto in qualche modo stanno facendo i loro giochi. Quindi, da un lato si parla di asse della resistenza indebolito, dall'altro lato si parla di mano dall'alto che ha permesso questa caduta del regime, quindi parlando di Stati Uniti e Israele e di Turchia, però quello che vorremmo capire insieme è quali sono le reali forze in campo sul territorio. Parliamo appunto di Hayat Tahrir al-Sham, dei ribelli dell'esercito nazionale siriano. A ciò si aggiunge la questione curda, quindi quali sono i vari soggetti che di fatto hanno contribuito alla caduta del regime di Assad. Je vais traduire.
Alors, j'ai compris, on va en partie.
Ok, bah, du coup, la question c'est un peu de comprendre quels sont les sujets qui sont réellement sur le terrain, vu que dans la narration occidentale, on voit d'un côté comme s'il y aurait une action qui est au-delà du territoire qui vient d'en haut, qui voit d'un côté l'axe de la résistance, comme il est appelé, qui est faibli à la suite de ce qui s'est passé, et de l'autre côté les Américains et Israël et la Turquie, tous au même niveau. Alors qu'en fait, pour nous, c'est un peu incompréhensible de voir comment ça se fait que c'est tout raconté comme si c'était tout au même niveau, voilà.
Comme si c'était au même niveau. Alors, pour comprendre la chute de Bachar, il faut comprendre que d'abord, l'État de la Syrie, qui était dirigé par un régime militaire, violent, effroyable, même au niveau de ses méthodes, et qui représente un petit peu la dégénérescence de beaucoup de régimes qui auparavant étaient des régimes nationalistes arabes et qui ensuite ont dégénéré. Donc, c'était le cas en Syrie, c'était le cas auparavant, en Irak, etc. Il faudra aussi, revenir sur comment l'impérialisme a sa grande responsabilité, et même une responsabilité essentielle, dans cette situation de dégénérescence. Alors, la situation en Syrie est absolument terrible. Les sanctions économiques.
Excusez-moi, Youssef, en fait, nous, on entend vraiment mal et du coup, c'est un peu compliqué pour moi d'aller traduire.
Alors, je
J'essaie de
comprends.
te rappeler. Je te rappelle avec un téléphone portable, comme ça, peut-être que ça va être mieux.
Ah, très bien.
Très bien. OK, à tout de suite. Merci. Et visto che abbiamo dei mezzi veramente poco efficienti, ora proviamo a richiamare Youssef con il telefono, visto che si sentiva molto male, quindi un attimo solo. Alors, ok, ça va, c'est mieux. Oui, pour nous, c'est mieux. Pour toi, tu nous entends?
Oui, ça va, très bien.
Ok, parfait. Ok.
Alors, les forces en présence, c'était un petit peu la question, c'est ça, hein, si je me rappelle bien.
Oui.
On avait donc les, comment le, la Syrie faisait partie de ce qu'on appelle l'axe de la résistance. Iran, Syrie, Liban, les Houthis du Yémen, et puis les forces populaires en Irak. Et maintenant, la Syrie ne fait plus partie. La Syrie a été complètement neutralisée à la suite d'une intervention menée par la Turquie, financée en grande partie par le Qatar, d'ailleurs. Et de ce fait, eh bien, comment cette intervention, parce que on n'a pas proprement parlé à faire une révolution. C'est pas une révolution populaire qui a chassé Bachar. Donc c'est une intervention militaire de la Turquie, du Qatar. Et cette intervention militaire, évidemment, n'a pu se faire qu'avec l'accord des puissances, enfin, la liste, évidemment, et qui, on le sait, par en dessous, ont soutenu. Mais aussi par le bloc, l'autre bloc opposé, qui était le bloc de l'Arabie Saoudite et Égypte. Et cette intervention, elle avait comme objectif de renverser le régime d'Assad, mais aussi, eh bien, elle avait comme objectif, eh bien, disons, de neutraliser définitivement la Syrie. Et surtout, et ça, c'est le grand risque, eh bien, de la neutraliser et surtout, eh bien, peut-être même de la dépecer, de la diviser, la Syrie, hein. Et on pourra en dire un mot après, mais c'est le grand risque d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai un peu répondu à ta question ou tu peux la préciser?
Oui, bah, je vais traduire déjà.
Oui.
Quindi appunto dice intanto questo intervento che è avvenuto in seguito a comunque l'appoggio e il finanziamento da parte della Turchia e del Qatar che ha visto la caduta del regime di Assad. Non possiamo parlarne nei termini di una rivoluzione popolare, ma appunto di un intervento militare di questi due paesi in particolare. E si è potuto fare con l'accordo delle potenze imperialiste con l'altro blocco, che è quello dell'Arabia Saudita e dell'Egitto. L'obiettivo era fare cadere il regime, ma anche di neutralizzare la Siria e soprattutto di dividerla. Quindi il grande rischio di oggi è appunto lo scenario che si può aprire e quindi una frammentazione, una divisione della Siria. Per approfondire un po' di più questi temi, quello che vorrei chiedere a Youssef riguarda appunto questa fase di transizione. Ci sono differenti soggetti alloggi sul territorio siriano e vorrei capire in particolare rispetto a quello di cui si è maggiormente parlato, quindi di Yad Tahrir al-Sham. Qual è effettivamente il suo radicamento, sul territorio, il suo consenso da un punto di vista popolare e sociale e anche il suo progetto, la sua proposta? Je vais traduire. Vu qu'en fait on a parlé de ce qui s'est passé là maintenant, on voudrait approfondir comment ça va se passer selon toi la transition dans cette phase après la chute de Assad, c'est-à-dire il y a différents sujets et en particulier on voudrait parler de Akhtarira al-Sham. Dans le sens où on voudrait comprendre quel est son rôle dans les territoires, quelle est sa présence sur les territoires, s'il y a un consensus populaire et social par rapport à son projet, et du coup, quel est aussi son projet et son projet politique par rapport à ce qu'on a vu. Sur les médias, on les traite depuis les médias occidentaux en tant qu'un leader qui est un peu plus compatible, intégrable, on va dire, même si voilà, il fait partie d'une dimension qui est celle des différentes courantes djihadistes, parce que c'est comme ça qui est défini sur les médias, mais par rapport à d'autres sujets qu'on a vus sur la scène internationale dans les dernières années, on voit qu'il y a une différente narration de ces leaders, de son groupe. Et du coup, voilà, je voulais savoir qu'est-ce que tu en penses et si on a des informations un peu plus précises par rapport à ça.
Alors, effectivement, cette opération qui a été menée par la Turquie, le Qatar, on dit même qu'il y avait beaucoup de conseillers ukrainiens dans cette opération, notamment pour tout ce qui était drone, etc. Cette opération, elle s'est faite avec un acteur politique qui est HTS, et qui est HTS dirigé par Joulani, qui maintenant vient de changer de nom, Al-Shara, mais bon. Et Joulani est le chef donc, d'une organisation dite djihadiste, pro-américaine, parce que comment c'est une organisation qui n'a pas de contradiction avec les Américains, d'ailleurs, qui ne le ciblent même pas. Et évidemment, cela pose beaucoup de problèmes. Alors, la population syrienne est très contente de la fin de la dictature, c'est un fait. Et aujourd'hui, aujourd'hui, on ne sait pas encore, avant même une consultation politique, on ne sait pas encore ce qu'elle pense. Pour l'instant, la population syrienne est contente de l'ouverture des prisons, de la fin de la dictature. Ça, c'est une chose. Quant à HTS, ça c'est autre chose. HTS, c'est une organisation qui aujourd'hui est ce qu'on dit impérialo-compatible, qui n'exprime aucune opposition avec l'impérialisme américain, qui occupe pourtant la Syrie, qui ne dénonce même pas Israël, qui maintenant aujourd'hui, vous le savez, est en train d'occuper une partie de la Syrie, notamment la frontière avec le Liban. Qui ne dénonce évidemment pas l'occupation de la Syrie par la Turquie également, parce que la Turquie, évidemment, occupe également de nombreux villages, toute une bande frontalière au nord-ouest. Et cela, évidemment, est extrêmement grave pour l'avenir, d'autant que HTS vient d'exprimer son intention de démanteler tout ce qui était des restes d'économie d'État en Syrie. Parce que la Syrie avait quand même une économie d'État qui était héritée de l'époque où le régime a mis en place une structure économique qui était un petit peu proche de celle des pays socialistes. Voilà. Donc je reprendrai ensuite pour éviter de trop surcharger ta traduction.
Merci beaucoup. Quindi questa operazione con il supporto di Turchia, Qatar, ma anche il supporto ucraino, si è fatta con un attore politico che è appunto Akhtarir al-Sham, con Al-Jolani, che ora si fa chiamare al-Sharam, che è il leader di un'organizzazione detta jihadista pro-americana, perché non ha contraddizioni con l'America, non li vede come responsabili e questo è un problema. La popolazione siriana all'oggi è chiaramente contenta della caduta del regime, dell'apertura delle prigioni, della fine della dittatura, ma non sappiamo cosa succederà. Quindi HTS è una forza che è compatibile con l'imperialismo americano, che non esprime alcuna opposizione con questo, non denuncia neanche Israele, che sta occupando una parte della Siria, in particolare la frontiera con il Libano, e non denuncia l'occupazione della Turchia nel nord-est, e questo è molto grave. HTS esprime anche l'intenzione di voler smantellare l'economia di Stato della Siria, che originariamente ai suoi albori, che poi ha subito diverse trasformazioni, era un paese vicino ai paesi del blocco, socialista. Tu vuoi continuare?
Je continue?
Oui, merci.
Et surtout sans oublier que les Américains disposent de grandes bases en Syrie. Et évidemment, comme pour l'Irak, les Américains occupent ces bases, comme pour Israël, comme pour la Turquie, sans aucun droit international, sans aucune demande du peuple syrien. Et ça, c'est la question que personne ne veut que mon neveu abordait. La grande angoisse aujourd'hui est effectivement l'éclatement de la Syrie. L'éclatement de la Syrie, évidemment, d'une part, et d'autre part, le fait que la Syrie, maintenant, ne laisse plus passer les armes en provenance d'Iran vers la résistance libanaise, mais aussi vers la résistance palestinienne. Ce que les gens ne savent pas, c'est que des armes iraniennes passaient à travers la Syrie, pour l'axe de la résistance, et ces armes passaient, et aussi également en Jordanie, et jusqu'en Jordanie, et ensuite en Cisjordanie. Et ça veut dire que ces troupes des armes, maintenant, est complètement bloquée. Et ça, c'est évidemment très très grave. Alors bien sûr, nous sommes contents pour le peuple syrien, bien sûr, mais ce qui est extrêmement grave, c'est que cela pose une hypothèque vraiment très dangereuse pour l'avenir de la résistance libanaise et l'avenir de la résistance palestinienne également, particulièrement en Cisjordanie. Et ça, c'est aussi le point très important. L'autre chose également, c'est que la Syrie va donc peut malheureusement devenir une base d'agression israélienne contre le Liban, parce que maintenant Israël occupe, vous savez, la route Beyrouth-Damas, pratiquement Beyrouth-Damas, et occupe donc l'ouest de la Syrie, une bande frontalière à l'ouest de la Syrie, et elle peut maintenant attaquer le Liban. Israël peut maintenant attaquer le Liban à partir de la Syrie, à partir de l'est, ce qui provoquerait une sorte d'encerclement. Mais l'autre aspect dangereux également, c'est que la Syrie peut par la suite devenir une base d'agression contre l'Irak. C'est que maintenant la Syrie est en train d'échapper aux Syriens, pour l'instant, en tout cas. À moins qu'il y ait un sursaut patriotique national de la part de HTS. Et bon, on ne le voit pas très bien parce que HTS est une force quand même qui est extrêmement, qui pour l'instant en tout cas, est extrêmement opposée à l'axe de la résistance. Oui, je t'en prie. Hein.
Oui, merci. Allora, l'altra questione che è da mettere al centro è che gli americani dispongono di grandi basi in Siria, così come è successo in Iraq, occupano queste basi senza rispettare alcun diritto internazionale e questo discorso nessuno vuole vederlo. Quindi al momento la grande preoccupazione è che la Siria crolli totalmente, che ci sia una crisi totale della Siria. Dall'altro lato ora vediamo come dalla Siria non possano più passare armi e sostegno alla resistenza palestinese, libanese e in Cisgiordania. Questo passaggio è stato bloccato, quindi questo pesa come un'ipoteca molto pericolosa per l'avvenire delle resistenze. L'altra questione è che la Siria può diventare una base di aggressione israeliana contro il Libano, perché l'abbiamo visto, Israele continua a occupare strade di Damasco e all'ovest della Siria porzioni di territorio, quindi portando ad un accerchiamento del Libano a partire dalla Siria, ma allo stesso tempo può anche diventare base di aggressione contro l'Iraq. La cosa certa è che in questo momento il futuro, la decisionalità di quello che può essere del territorio siriano è assolutamente al di fuori delle mani della popolazione. L'unica variabile, diciamo, che potrebbe incidere in un senso inverso è un sentimento e una proposta più, una forza più nazionalista portata con più decisione da parte del DHT. Yes. Si tu veux continuer.
Oui, ce que je veux dire, c'est que effectivement, encore une fois, nous sommes contents pour le peuple syrien par rapport à ce régime dégénéré. Ce qu'on pourrait appeler, c'est un régime nationaliste dégénéré, qui avait peu à peu dérivé vers une dictature terrible. Mais ce que je veux dire, c'est que l'avenir, beaucoup de choses nous échappent encore. On a encore beaucoup de questions, on ne peut pas répondre à toutes les questions. On va voir un petit peu avec l'avenir. Mais disons que il est indispensable que pour l'avenir même de la Syrie et pour le bien du peuple syrien, il est indispensable que le nouveau régime se tienne à l'écart des plans impérialistes. Hein, et le grand risque, c'est si jamais si jamais l'unité nationale syrienne éclate, aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, mais je précise, vous savez que la Syrie a été une colonie française dans l'entre-deux-guerres, ce qu'on appelle le mandat français sur la Syrie, hein, entre en gros 1920 et 1945. La Syrie a été une colonie française, et à l'époque, en Syrie, la France avait prévu d'établir cinq États en Syrie, selon les confessions, selon les origines, hein, voilà. Et le grand risque aujourd'hui, c'est qu'on en revienne à ce découpage religieux de la Syrie, et peut-être même au-delà. Aujourd'hui, le grand l'impérialisme ne cherche même plus à diviser même la Syrie en petits États, ils cherchent simplement à organiser des zones qui seraient chacune contrôlées peut-être par une faction militante, plus ou moins contrôlée, des djihadistes pro-impérialistes, parce qu'il y en a eu un certain nombre quand même en Irak. Donc voilà, cette espèce de zone impérialiste, aujourd'hui, maintenant, ils ne cherchent même pas à mettre en place en Syrie un régime qui lui serait favorable. C'est que le principal pour l'impérialisme, c'est de neutraliser la Syrie et même de la faire éclater en zone extrêmement instable, avec juste la préoccupation de l'impérialisme, c'est qu'il n'y ait pas de nouvel exode de Syriens vers l'Occident. Ça, c'est la grande angoisse, et on le voit bien aujourd'hui. Je vais en dire un mot après par rapport à cette question des réfugiés syriens. Ça, c'est la grande angoisse. Et si la Syrie éclate en une multitude de petites zones contrôlées par tel ou tel groupe, ce n'est pas du tout un problème. Hein, le principal, c'est qu'elle soit neutralisée. Et je reprendrai ensuite pour te laisser traduire.
Oui, merci beaucoup. Quindi Youssef continua parlando di quello che potrebbe essere l'avvenire, un avvenire molto difficile su cui non abbiamo ancora risposte, quello che ci auguriamo è che dovrebbe essere indispensabile per il popolo siriano è che il nuovo regime, la nuova fase dovrà tenersi fuori dai piani imperialisti, ma questo lo vede come una possibilità complicata. Pensiamo al passato, la Siria è stata una colonia francese tra il 1920 e il 1945, all'epoca la Francia aveva stabilito di imporre 5 stati divisi secondo base religiosa. Il rischio oggi è di assistere ad una frammentazione del territorio siriano. Youssef dice l'imperialismo oggi va addirittura oltre una frammentazione religiosa, cercherà probabilmente di organizzare delle zone, ognuna controllata da una fazione più o meno controllata da appunto jihadisti pro-imperialisti. Non si cercherà quindi di mettere in campo un regime vero e proprio, ma di far esplodere la Siria, far esplodere l'unità nazionale della Siria in diverse zone instabili, perché questo è utile per gli interessi imperialisti. L'unica vera preoccupazione del mondo occidentale è che non ci sia un nuovo esodo verso l'Occidente dei rifugiati siriani come è avvenuto negli scorsi anni. Merci Youssef, si tu veux continuer.
Tu veux préciser la question ou je continue?
Ouais, tu peux continuer.
D'accord. Donc je le répète encore une fois, c'est toujours formidable quand des prisons s'ouvrent, etc. Mais aujourd'hui, il faudrait que nous faisons confiance au peuple syrien, parce que c'est quand même un grand peuple qui a quand même une maturité politique, et nous faisons confiance au peuple syrien pour éviter ces complots, parce que je le dis bien, il y a vraiment une intention impérialiste précise. D'autant plus que la Syrie, ne l'oublions pas, subit des sanctions absolument terribles. Et d'ailleurs, je pense pouvoir dire que un des éléments principaux en termes stratégiques, hein, qui a fait s'effondrer le régime, c'est aussi c'est peut-être beaucoup plus la pression économique faite par les sanctions, beaucoup plus que l'action militaire, parce qu'on a bien vu que l'action militaire, en fait, a été très facile, et on voit bien qu'il y a même eu sans doute une entente où les Russes ont demandé au régime syrien d'arrêter toute résistance. Alors là, il y a encore des choses que l'on ne sait pas, hein, parce que, mais en tout cas, il n'y a pas eu de combat vraiment entre l'armée syrienne et ceux qui envahissaient le territoire au nord-ouest. Alors ce que je veux dire, c'est que cet avenir, il est incertain. Il faut absolument que le peuple syrien fasse front face à cette tentative de détruire son unité. On voit par exemple que dans le sud de la Syrie, dans la région Druze, Israël aimerait créer un État druze. Hein. Israël, vous savez, envahit le Golan. Vous vous rendez compte qu'Israël maintenant domine complètement le Golan et qui est à peine à 40 km de Damas. C'est-à-dire que du haut de la montagne qu'on appelle le mont Hermon, qu'on appelle Jebel Shir en arabe, eh bien du haut de cette montagne, on bombarde Damas sans problème. Hein. Donc Israël aujourd'hui, par exemple, aimerait créer un État druze. On le sait bien, ça va être une des premières choses. Donc voilà, tout cet avenir est vraiment incertain. Alors, par rapport à cela, l'axe de la résistance, aujourd'hui, que ce soit l'Iran, que ce soit Hezbollah au Liban, eh bien, prend acte de ce changement, demande effectivement et salue la joie effectivement des Syriens, mais en même temps, est extrêmement inquiet pour l'avenir, et en tout cas, se dit disposé à coopérer avec toutes les forces réellement populaires de Syrie. En leur demandant de se tenir à l'écart de l'impérialisme. Mais l'axe de la résistance, se maintient. C'est-à-dire qu'il va falloir maintenant organiser les choses différemment. Mais ce que je veux dire, c'est que il est hors de question pour l'axe de la résistance d'abandonner la Palestine, évidemment. Et on le voit bien. Sauf que ça va être beaucoup plus difficile. Quant à la reconstruction de la Syrie, eh bien, on voit bien que l'impérialisme va conditionner l'aide à la docilité du nouveau régime. Et même si le nouveau régime était un régime, on va dire, vraiment patriotique, eh bien, on voit pas comment il pourrait tenir. Hein. Aujourd'hui, l'impérialisme va exercer un véritable chantage. Sur le régime syrien, sur le nouveau régime, quel qu'il soit, même si HTS tout d'un coup devenait une force révolutionnaire, ce qui n'est pas du tout, parce que cette force réactionnaire, HTS, à l'origine de djihadistes wahhabites, et donc voilà, on connaît, hein, en plus HTS, ne l'oublions pas, a éliminé l'armée syrienne libre, d'autres fractions de l'opposition syrienne, hein, dans la poche d'Idleb. Alors aujourd'hui, comment la Syrie va-t-elle se reconstruire? Ça, c'est un vrai problème, parce qu'il va falloir que la Syrie absorbe le retour de 6 millions de réfugiés, hein, 6 à 7 millions de réfugiés. Et on le voit bien, ça va être quelque chose de terrible. Le principal problème, c'est comment reconstruire une Syrie indépendante de l'impérialisme, et unie surtout. Ça, c'est la grande angoisse, au-delà de la joie légitime de la fin du régime autoritaire. Excuse-moi, c'est un peu long.
Je vais traduire. Quindi diamo fiducia oggi al popolo siriano che abbia la maturità politica per appunto avere voce in capitolo nella transizione e nella nuova fase politica nazionale, ma bisogna appunto fare i conti con questa attenzione imperialista ben precisa, anche perché la Siria subisce pesanti sanzioni e un elemento principale, secondo Youssef, per la caduta del regime di Assad è stata la pressione economica fatta attraverso le sanzioni, molto di più che l'azione militare, che abbiamo visto essere stata molto semplice. Non sappiamo molte cose ancora di come sia effettivamente andata, ma non ci sono stati, in molte città non ci sono stati combattimenti tra l'esercito nazionale siriano e i ribelli. Il tentativo imperialista è quello di distruggere l'unità nazionale, e lo vediamo anche rispetto a come si sta muovendo Israele. Infatti vorrebbe creare uno stato druso all'interno della Siria. In questo momento Israele sta dominando le alture del Golan, che sono a 40 km da Damasco, quindi avendo una posizione privilegiata. L'avvenire quindi è incerto. L'asse della resistenza dall'Iran a Hezbollah in Libano prende atto del cambiamento e ovviamente salutano con gioia la caduta del regime di Assad, e sono disposti a cooperare con nuove forze che possano essere realmente popolari, ma chiedono di tenersi a distanza dagli interessi imperialisti. Quindi la vera questione è la ricostruzione della Siria. Se in questa incertezza non è facile potersi immaginare che ci potrà essere un nuovo regime nazionalista che potrebbe garantire un'unità nazionale, perché c'è questo ricatto che pesa molto sulla Siria, e soprattutto è difficile aspettarselo da parte di una forza come HTS, che è una forza reazionaria che viene dalla corrente salafita wahhabita, e oggi la Siria si trova in questa situazione. Oltretutto dovrà assorbire 6-7 milioni di rifugiati, quindi la sfida è come ricostruirla indipendente e unita. Merci Youssef, e je sais pas si tu voulais continuer pour nous dire des choses, sinon moi j'avais une question. Ok. On a lu un entretien de Joseph Daher, qui est un Syrien suisse qui est professeur à l'université en Suisse et à Florence. Et il a fait un entretien sur un magazine online, et il parle du rôle de l'Iran. Il parle de ça en tant que l'Iran, il voudrait garantir ses intérêts politiques et de sûreté nationale. Et du coup, il a voulu éviter les guerres directes avec Israël. Et son principal objectif politique en relation aux Palestiniens, ce n'est pas celui de les libérer, mais de les utiliser en tant que question qui pourrait avoir un poids sur ses relations avec les États-Unis. Ça, c'est ces personnes-là, c'est Joseph Daher qui dit ça. Du coup, je te voulais demander ton avis par rapport à ça. Et pour conclure, les mouvements de solidarité avec la Palestine doivent défendre les intérêts des peuples et n'est pas les intérêts des États impérialistes ou sous-impérialistes. Et ça, du coup, c'était la conclusion de l'entretien. Parce qu'en fait, lui, il voit dans le rôle et dans la position de l'Iran en particulier un peu cette tendance, et c'est quand même clair que l'impérialisme des Américains, ça reste les principales ennemis de la région, ça c'est clair, et du coup il continue comme ça. Du coup je te voulais demander qu'est-ce que tu en penses.
L'histoire selon laquelle l'agenda iranien, je trouve ça assez déplacé quand on sait que l'Iran est un pays qui est complètement encerclé, qui est menacé d'une guerre, parce que ça c'est l'autre aspect que je voulais dire également, c'est que dans l'impérialisme, la neutralisation de la Syrie, c'est aussi le prélude à une possible guerre contre l'Iran. Alors, je trouve ça extraordinaire qu'au moment où la Syrie est occupée par toutes les forces que l'on sait, la Turquie, les États-Unis, Israël, on en vienne encore à parler de l'Iran. Bien sûr que l'Iran, comme tous les pays de la région, ont toujours des intérêts. Toutes les puissances, tous les pays, quels qu'ils soient, ont des intérêts. Et il est évident que l'Iran, eh bien, comment cherche à ne pas être attaqué. Mais tous les peuples, c'est comme ça. La solidarité, c'est aussi une coïncidence entre des intérêts. Je veux dire, on n'a pas affaire à des ONG. Les pays, les États ne sont pas des ONG. D'accord ? Donc, l'essentiel pour la Palestine, lorsque les intérêts du peuple palestinien coïncident avec les intérêts d'un autre pays, quel qu'il soit, et je pense que c'est comme ça pour tous les pays de la région, eh bien, c'est tant mieux. Mais alors, l'idée selon laquelle et la focalisation vraiment obsessionnelle contre l'Iran, ça, c'est un agenda vraiment impérialiste. Ça, c'est un agenda vraiment impérialiste, parce que effectivement, que l'Iran, eh bien, l'axe de la résistance est aussi un moyen. Mais ce que je veux dire, c'est que ne pas voir que l'ennemi principal, c'est d'abord l'impérialisme. On n'a pas une équivalence entre l'impérialisme américain, Israël et l'Iran. C'est complètement antipolitique que de voir les choses là. C'est même pas logique. Alors, sans doute que l'Iran a des intérêts, et bien sûr que l'Iran a des intérêts. Les outils aussi du Yémen aussi ont des intérêts, parce que les outils du Yémen aussi, qui ont subi un véritable génocide, hein, et bien ont aussi intérêt à cet axe de la résistance. L'axe de la résistance, qu'on le veuille ou non, était un élément de résistance à l'impérialisme. Le régime syrien était le maillon qui faisait le lien dans cet axe de la résistance. Mais il ne faudrait pas aujourd'hui complètement déplacer l'analyse et mettre la focale sur l'Iran comme si c'était l'Iran qui posait problème dans la région. Non, ce qui pose problème dans la région, c'est d'abord l'axe, moi ce que j'appelle l'axe de la déchéance face à l'axe de la résistance. Et l'axe de la déchéance, eh bien, c'est un axe américano-israélo-régime arabe. C'est ça qui pose problème dans la région, jusqu'à preuve du contraire. C'est pas l'Iran qui est un pays qui a subi une guerre qui lui a fait 600 000 morts, qui a été organisée par l'impérialisme, etc. Je veux dire, c'est aberrant cette lecture des choses qui consiste à montrer que l'ennemi principal dans la région, c'est l'Iran. C'est complètement démentiel. D'autant plus qu'aujourd'hui, il n'y a plus une seule force iranienne en Syrie. Et on continue encore à parler de... je crois que c'est un discours qui est extrêmement dangereux et qui, d'une certaine façon, prépare la prochaine guerre contre l'Iran. Alors, les peuples et les États, dans aucune lutte de libération, dans toutes les luttes de libération, que ce soit à l'époque du Vietnam, que ce soit à l'époque de l'Algérie ou autre, eh bien, il est évident que les États qui soutenaient ces libérations, c'était aussi par rapport à leur propre intérêt. Ça ne veut rien dire de dire soutenir les peuples, pas les États. La question n'est pas là. C'est que le peuple palestinien avait fait des choix, et le peuple palestinien était un des maillons de cet axe de la résistance. Les organisations de résistance palestinienne, d'accord, elles prennent acte de la nouvelle situation en Syrie. Encore une fois, moi je trouve très dangereux aujourd'hui cette obsession contre l'Iran. Et je crains que cela participe de la préparation à la guerre impérialiste, à la prochaine guerre impérialiste contre l'Iran. Tout l'indique. Voilà un petit peu. Est-ce que j'ai un petit peu répondu à ta question ou,
oui. Merci pour avoir clarifié très bien. Je vais traduire. Perché la domanda non l'avevo tradotta, abbiamo ripreso un passaggio di un'intervista a Joseph Dahrer, che è un siriano svizzero, docente all'Università di Losanna, che su un sito ha risposto ad alcune domande su Tempest e parlava appunto del ruolo dell'Iran e dei suoi interessi di politica e di sicurezza esterna, quindi del fatto che stia utilizzando, diciamo, i palestinesi nell'ottica di usarli come leva, in particolare nelle relazioni con gli Stati Uniti, e quindi la questione poi viene posta nei confronti del movimento di solidarietà alla Palestina per difendere e allinearsi non con gli stati imperialisti o subimperialisti che antepongono i loro interessi alla solidarietà con la Palestina, ma ovviamente con i popoli. E Youssef, rispetto a questo, ha detto L'Iran è un paese accerchiato, minacciato. La Siria, per come si trova in questo momento, occupata quindi da diverse forze, è un dato di fatto ed è chiaro che l'Iran abbia degli interessi e cerchi di non essere attaccato. La solidarietà si basa su degli interessi coincidenti, la solidarietà tra Stati e Nazione, di questo stiamo parlando anche per quanto riguarda l'asse della resistenza, non stiamo parlando di ONG, ma un approccio di questo tipo. Quindi questa lettura di cui parlavamo prima è nell'agenda dell'imperialismo, perché non ci possono essere equivalenze tra imperialismo americano ed Israele e imperialismo e quello iraniano. È chiaro che ha degli interessi l'Iran, la Siria era l'anello di congiunzione di questo asse, ma non si può assolutamente spostare l'attenzione tra appunto quello che è il vero problema della regione, quindi l'asse degli americani Israele e delle monarchie saudite. Questa lettura delle cose quindi è completamente falsata e soprattutto un discorso molto pericoloso, perché può preparare alla prossima guerra contro l'Iran. Infatti è ovvio ed è chiaro che in tutte le lotte di liberazione, in ogni epoca, è evidente che i movimenti e le resistenze si devono tenere in solidarietà, si deve dare solidarietà a quella che è la lotta di liberazione che viene dal popolo e dal basso, ed è chiaro che ci sono anche degli stati che hanno dei loro interessi e che supportano una parte o l'altra. Ma è pericolosa questa ossessione contro l'Iran, perché può preparare alla prossima guerra imperialista. Merci Youssef.
Soutenait le Vietnam, on va dire aussi pour ses intérêts. L'Égypte de Nasser soutenait l'Algérie aussi pour ses intérêts. Donc c'est complètement stupide de dire, bien sûr qu'il y a toujours des intérêts. Mais dans le cas syrien, par exemple, il y a une question que juste je voudrais ajouter, c'est la question kurde. Aujourd'hui, tout le monde sait très bien que la Turquie, qui d'où est partie l'offensive est quand même partie de Idlib, qui est une zone complètement sous contrôle turc, où il y a même l'argent turc qui circule, hein, faut savoir, à Idlib. Et aujourd'hui, la Turquie occupe toute une partie de la Syrie. Alors c'est étonnant qu'on ne parle même pas de cela. On parle de l'Iran, derrière parle de l'Iran, mais pas un mot sur la Turquie. Or la Turquie, concrètement aujourd'hui, est en train d'affronter les forces kurdes, est en train de foncer vers le nord, de la Syrie, vers la zone kurde, vers le Rojava, vers etc. Mais comme si là on ne dit pas que la Turquie a soutenu pour ses propres intérêts l'offensive de HTS. C'est quand même assez. On voit bien là la duplicité de ce discours. Je veux dire, si aujourd'hui il y a vraiment des États qui instrumentalisent, c'est bien Israël qui est en train de fractionner la Syrie, c'est bien les Américains qui occupent complètement, c'est bien la Turquie qui occupe aussi toute une partie de la Syrie. Et donc c'est pour dire que cette polarisation sur l'Iran est extrêmement dangereuse et ne correspond même pas à la réalité. Voilà ce que je voulais ajouter.
Ha aggiunto il fatto che bisogna ovviamente tenere in considerazione anche la questione curda. Infatti la Turchia, da cui è partita questa invasione e che ha sostenuto appunto HTS, è chiaro che ora sta controllando gran parte del territorio siriano, sta minando la rivoluzione curda, e quindi bisogna parlare dei veri problemi della regione, che sono USA, Israele e Turchia. Merci Youssef. Nous en fait on est d'accord sur le fait qu'il faut être vraiment clair sur ça. Je te demande s'il y a encore quelque chose que tu veux rajouter, et après il faut qu'on te salue parce qu'on est un peu à la fin de notre temps.
Je vous remercie beaucoup et je vous remercie beaucoup, et puis je souhaite bonne continuation à votre média et vive la solidarité internationale et vive le peuple syrien et vive évidemment la résistance palestinienne et tous ses alliés.
Merci a toi. Quindi niente, ci saluta, dice viva la resistenza dei popoli, la resistenza palestinese, viva il popolo siriano e buona continuazione. Merci beaucoup Youssef, alla prochaine.
Ciao.